continuer à faire des selfies dans le studio. Qu'est-ce que t'en penses?
Eh bien, merci énormément. Vive la France libre.
Une révolution humaine.
L'invité de 11h et quelques, la rediff. Radio BLV 93.6, dans Avec ou sans sucre. Il est 11h05, le temps pour nous de retrouver notre invité de 11h et quelques. Et aujourd'hui, comme je vous l'annonce depuis tout à l'heure, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-Jacques Bertin, photographe naturaliste et entre autres, on va dire. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Bien installé ?
Les câbles.
Bon, parfait. Belle voix de radio. Je vais baisser un tout petit peu. Voilà, on participe à la cuisine interne. Tu sais, sur Radio BLV, on est comme à la maison et les auditeurs et auditrices, c'est vraiment du live, c'est vraiment du direct comme on disait. Alors Jean-Jacques Bertin, effectivement photographe naturaliste, photographe animalier. On va explorer ton univers, mais qui est en fait l'univers, notre univers, puisque c'est la nature au sens le plus large du terme, ce que nous partageons, ce que nous devrions en tous les cas partager toutes et tous. Alors avant d'aller explorer cet univers que tu nous partages par l'image, il y a un rituel dans l'invité de 11h et quelques, c'est que l'invité nous raconte son parcours. Alors comment Jean-Jacques Bertin est arrivé à devenir photographe naturaliste dans la Drôme? Est-ce que t'es né dans la Drôme déjà? Et puis est-ce que c'est une passion? Est-ce que ça va puiser dans l'enfance? Est-ce que c'est une rencontre sur le chemin? Comment ça se passe?
Alors, je suis drômois d'adoption, c'est-à-dire je suis arrivé en 1979 à Saint-Laurent-Royan pour le boulot, parce que je suis actuellement à la retraite depuis 2 ans, et donc j'étais éducateur spécialisé, donc je suis arrivé en 79 à la Providence, à Saint-Laurent-Royan. Voilà, avec une découverte, une région que je ne connaissais pas du tout, donc une découverte totale. Et je suis pas prêt d'en partir parce que le Vercors, c'est vraiment un espace fabuleux. Voilà, sinon, né à Paris, parisien, banlieusard, banlieue rouge, Pantin, etc., jusqu'à 18 ans. Après Marseille et après pour le boulot, première formation, donc 3 ans en Haute-Corrèze, à la limite du plateau de Millevaches.
Là aussi, belle nature.
Avec une belle nature, avec une approche effectivement naturelle et naturaliste. Voilà, c'est un très bel endroit aussi, dans le genre sauvage.
Et la photo, elle est arrivée tout petit, justement, à Pantin. Tu avais un boîtier déjà, ou tout petit, ou tu regardais déjà des images en tous les cas? Est-ce que l'image était présente dans l'enfance?
L'image pas trop, mais en fait la démarche vient de la nature, en fait d'une approche de la nature. Voilà, c'est-à-dire que toutes mes vacances je les passais dans le Limousin d'où ma mère est originaire, voilà, à la campagne, à la ferme, et donc j'ai eu un petit instamatique, voilà, étant gamin, une caméra au moment du BEPC, ça me revient maintenant. Et puis, l'appareil photo, le premier réflexe, ça a été la naissance de ma fille, c'est-à-dire il y a un peu plus de 40 ans. Voilà, et de fil en aiguille, la photo est devenue un support pour, immortaliser, entre guillemets, certains moments, certains... Mais voilà, c'est un support, c'est un plus par rapport à une approche naturaliste. Voilà, de toute façon, par rapport à une photo dite naturaliste... animalière, c'est à partir du moment où on connaît bien son sujet et qu'on a étudié un peu le comportement, la manière d'être, etc., qu'on arrive effectivement à prendre quelques photos intéressantes. Après, il peut y avoir une autre recherche plus artistique, etc. Bon, c'est ce que chacun recherche. Au niveau d'une photographie animalière. Voilà. Donc la photo, donc réflexe depuis, ouais, on va dire 42 ans, en argentique bien évidemment, et un passage au numérique en 2005. Voilà, donc ça fait 13 ans, j'ai un peu de mal à passer au numérique, c'était très un peu compliqué au départ. Puis finalement, une fois que c'est fait, voilà, on a des possibilités qu'on n'a même pas osé imaginer il y a une quinzaine d'années, quoi. Enfin, surtout dans ce domaine-là. Voilà.
Ouais, ça permet une certaine liberté, effectivement. Bon, une liberté supplémentaire, on va dire. Alors, c'était la nature avant toute chose. C'est la nature qui m'a fait venir à l'image, finalement. Cette nature, tu l'immortalises, tu la couches sur le papier, que ce soit la nature ou que ce soit les animaux. Alors, il y a beaucoup de photos d'animaux, beaucoup d'oiseaux particulièrement. Mmh.
C'est ton
cheval de bataille, les oiseaux plus particulièrement.
Oh, c'est un attrait particulier, là. Voilà, le côté aérien. Et j'ai une passion pour les rapaces au départ, donc, notamment le faucon pèlerin, c'est un oiseau qui me fascine depuis toujours. Donc il y a beaucoup d'oiseaux, mais il y a pas mal de mammifères aussi. Mm-hmm. Donc voilà. Donc après, effectivement, j'ai un site. Hein, je ne sais pas si on en parle maintenant.
Oui, bien sûr. Voilà. Gigibertin.fr.
Voilà.
Vous pouvez aller voir.
Donc effectivement, il y a d'autres choses. Il y a un peu de paysage. Il y a la photo macro. Mm-hmm. Donc j'ai une période comme ça un peu macro. Mais bon, l'essentiel est quand même l'oiseau en vol. Voilà. Donc, vous pouvez regarder sur le site, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites devant la porte à la maison en pleine campagne. Donc, voilà, il n'y a pas non plus besoin. Bon, il y a d'autres choses un peu plus exotiques. Hein, mmh. Vous verrez quelques. Alors, les exotiques viennent essentiellement de Guadeloupe, que ce soit baleine, frégate. Pélicans et autres.
Alors on en parlera peut-être.
Voilà, on en parlera plus tard.
Un petit peu plus tard. Moi, j'aurais bien aimé que tu nous racontes, parce que c'est parler de photos à la radio, c'est toujours un défi. Hein, on est bien d'accord. Comment tu l'as dit rapidement à un moment, c'est que à force de les étudier, à force de les pas de les étudier, mais en tous les cas de les regarder vivre, j'imagine que c'est énormément de temps pour pouvoir saisir le bon moment. Ce sont des animaux sauvages aussi. Donc comment on se positionne, soi-même en tant qu'humain qui n'est pas nécessairement qui a pas forcément grand chose à faire à l'endroit où il est à ce moment-là quand on est face à la faune sauvage. Comment ça se passe? Est-ce que c'est beaucoup de temps? Est-ce que toi tu as une démarche particulière? Je sais pas. Il faut être sans doute très silencieux, ou au contraire c'est pas tu te caches pas, mais tu as la relation aussi et tu mets en place une relation.
Alors, c'est une démarche. Bon, déjà, il y a une démarche de non-dérangement. Parce que, la nature, on y est juste invité. Hein, faut le savoir. L'autre fois, j'ai un ami qui m'a envoyé une photo. Et c'était le sous-titre, c'était angle de vue. C'est-à-dire, on voit un chevreuil sur une route. Alors, la bonne question, est-ce que c'est un chevreuil qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit un chevreuil qui traverse une route ou est-ce qu'on voit une route qui traverse la forêt? Bon, à partir de là, déjà, ça permet de poser un peu l'approche. Pour moi, on est invité dans la nature. Donc après, effectivement, la photo, ça vient renforcer, ça permet de mémoriser certains moments, certaines rencontres. Moi, je suis plutôt balade. Voilà. Mmh. J'ai fait de l'affût sur certaines choses pour photographier certains oiseaux, etc. Bon, au départ, c'est pas franchement ma tasse de thé. Bon, mais j'en ai fait un peu. Mais bon, voilà. Donc, c'est plus ce qu'on appelle la bibaude. La bibaude, c'est une approche.
C'est quoi exactement?
La bibaude, c'est. C'est une approche, alors effectivement, c'est un terme qu'on emploie beaucoup au niveau naturaliste, qui se veut respectueuse, donc forcément silencieuse. Mmh. C'est-à-dire qu'on se balade tranquillement, puis on s'arrête, on écoute, etc. Mmh. Il faut se dire que dans la nature, les animaux, ils ont leur sens X mille fois plus développé que les nôtres. Donc si on n'est pas silencieux, si on n'a pas bon vent et en plus si on n'a pas une bonne vision, donc déjà on a un peu tout faux.
Donc, on
va rencontrer des êtres vivants qui sont bien plus doués que nous, voilà, et qui ont des sens bien plus développés. Donc c'est presque un challenge hein, de pouvoir approcher certains animaux, bon, après la photographie. Alors l'idée aussi c'est de déranger le moins possible. Mmh. Alors déranger le moins possible, à la limite si l'oiseau, l'animal ne vous a pas vu et reparte, ça c'est un peu le Graal quoi. Donc voilà. Ouais. Alors après effectivement il y a aussi des moments où on est vu. Et là, il y a une histoire de rencontre. Bon, alors, c'est très rapide. Mmh. J'ai fait un petit texte, là, qui est d'ailleurs sur le site. Mmh. Est-ce que je peux le lire ?
Bien sûr, hein, bien sûr.
C'est juste
t'as
pour
tous les
préciser...
droits, c'est toi l'invité.
Pas exagéré. Alors, mais ça... Voilà. Ça symbolise bien ce que j'essaye d'expliquer. Alors, avant tout, la nature et la vie sauvage. La photo vient rappeler ces rencontres intenses et fugaces, ou combien, l'étonnement et la curiosité de part et d'autre. Parce que ça existe, la curiosité oui. aussi du côté des animaux et des oiseaux. Alors il ne s'agit pas de figer, mais juste de mémoriser et partager cette émotion, voire de montrer des mouvements, des choses presque indécelables à l'œil nu. Du plaisir simple de la bille baude et ses quelques instants nez à nez, les yeux dans les yeux. Il suffit de se poser, PAU, et de regarder. Voilà, bon, c'est assez succinct, mais ça symbolise assez bien cette approche. Voilà. Mm-hmm. Effectivement, la rencontre existe à des moments, hein, c'est pas infaillible, le vent qui tourne, on est vu avant de voir, parce que mm-hmm. c'est un peu l'histoire, hein, si on arrive à voir avant d'être vu, c'est... Bon. Il va se passer peut-être quelque chose, mais bon, et puis tous les animaux à côté desquels on passe et qu'on ne verra pas,
oui,
et qui eux, mais qui eux vous ont capté. Voilà un peu ce qu'est la bille baude et l'approche.
Et le du coup, alors bon, c'est vrai que ça permet aussi l'image d'immortaliser, comme tu dis, mais ça permet aussi de partager, parce que ces grands moments que tu passes dans la nature, ces rencontres que tu fais, encore une fois, qu'elles soient cachées ou qu'elles soient partagées, tout le monde n'y a pas nécessairement accès pour plein de raisons, voilà. Mmh. Et puis pour certains ou certaines, n'imaginent même pas que ça existe. Parce que parfois on peut en être là aussi et à côté de chez nous. C'est pas là où on n'est pas, on part pas à l'autre bout du monde. Et le fait de montrer, de partager ces images, de montrer combien cette faune est belle, combien cette nature est belle. J'imagine que parce que tu fais régulièrement des expos, on annoncera celles qui sont en cours à la fin. Mais j'imagine que tu as des rencontres avec des gens qui viennent visiter justement voir les expos et qui disent. Et il dit, mais ça existe ça, mais ah bon, mais on peut voir tel animal ici, et c'est à côté de chez nous, et c'est aussi beau. Par exemple, un insecte, où souvent les insectes, on a tendance à dire, bon, c'est un peu les mal-aimés, on va dire, du règne animal. Bah, ah ouais, ça peut être aussi beau que ça. Et tu as eu, j'imagine, des rencontres comme ça.
Tout à fait. Alors justement, pour parler des expos, c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. Donc mm-hmm. les expos, c'est depuis le mois de septembre.
D'accord, oui, voilà, effectivement, c'est très récent.
Ça faisait plusieurs années que ma compagne me tannait en me disant « Et c'est quoi ces photos dans l'ordi, là, t'en fais rien, etc. » Voilà, et puis un copain aussi, qui est celui qui m'a fait le site, mm-hmm. qui me disait depuis des années « Mais il faut en faire quelque chose et tout. » Donc, et un ami avec qui je fais de la photo et qui, bon... m'a aussi suggéré, voilà, il me dit on fait un truc en commun et tout ça. Donc on a fait les deux premières expos ensemble à partir du mois de septembre 2017. Mmh. Voilà, donc du coup, c'est parti, on va dire, un peu plein pot, quoi, parce que j'en suis actuellement, il y a deux expos en même temps. Mmh. Donc c'est la sixième et la septième depuis le mois de septembre, donc effectivement. Mais... Ouais, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de pouvoir faire une sensibilisation par rapport à une approche et par rapport à des choses que les gens ne voient pas forcément, et puis toutes les interrogations que ça peut avoir. Bon, dans le cadre des expos, là, j'ai rencontré aussi pas mal de gamins, et je trouve que ça, c'est vraiment ce que le... Bon, moi, je découvre un peu aussi au fur et à mesure, hein, c'est pas trop dans mes habitudes mettre des choses en avant comme ça, etc. Mais c'est très intéressant, effectivement, de pouvoir sensibiliser, discuter, approcher certaines choses. Et puis les mômes, ils sont cash, quoi. Donc, effectivement, c'est une approche, c'est tout de suite, quoi. Dans la... de mes expos, j'avais fait un diaporama également, donc avec 3 heures de photos. Parce que là, les expos sont des tirages sur bâche. Il y en a une trentaine quand c'est le... Toutes les photos sont affichées. Mmh. Et après, sur le diaporama, je sais pas, il y a 800 photos. Donc, ça fait aussi un support. Et ça a très bien fonctionné, quoi, pour pouvoir discuter avec les gens, avec les gamins et tout. Et ça, c'était vraiment très, très intéressant. Et après, je parlerai d'associations aussi qui militent et qui font ce travail-là depuis de nombreuses années. Moi, c'est une petite goutte d'eau dans cette histoire-là.
Parce que le support de l'image, il est toujours immédiat, on va dire, et il parle. Mm-hmm. On est dans une société d'image aujourd'hui. Et tu disais les enfants. Alors quelle réaction tu as pu avoir, par exemple, avec des mômes qui découvrent ce qu'est. Hein, bah, tu parlais d'un faucon pèlerin, par exemple, en vol. Tu as eu. Quelles sont les questions qui se posent? Quelles sont les réactions?
Ben, c'est très varié. J'ai des gamins qui... J'ai été surpris, des gamins de 8-10 ans qui connaissaient un tas de trucs, vraiment.
Ouais.
Bon, après, il y a...
Curieux.
Au niveau de la curiosité, qui connaissaient vraiment des noms d'oiseaux, d'animaux. C'était très étonnant. Et puis d'autres très nature qui découvraient et voilà, qui posaient tout un tas de questions sur le mode de vie, sur où ça vit, etc. quoi. Enfin bon, voilà.
Ouais, comme quoi c'est quand même un bon média de partage. Alors tu parlais des associations, effectivement, donc puisque ta démarche elle est vraiment naturaliste de prime abord, tu travailles ou tu accompagnes, il y a des associations amies, on va dire, autour de toi ou dans lesquelles tu es investi. Il y a la LPO, on parle des oiseaux, donc forcément c'est la première à laquelle on pense, qu'on a accueilli déjà ici, mais il y en a d'autres. Et alors je te laisse peut-être partager aussi un petit peu ces différentes structures qui peuvent nous permettre d'aller plus loin dans notre découverte de la nature.
Bon, militant, c'est un grand mot pour moi. Voilà, on va dire ça. Je suis adhérent depuis de nombreuses années, mais après, au niveau du militantisme, je suis un peu en dessous, donc je suis largement en dessous de ce que je pourrais faire. Mais bon, ça, c'est une autre question. Mais on est une région privilégiée, un département particulièrement privilégié au niveau des associations de protection de l'environnement, de la nature, la faune, la flore. Donc, il y a la FRAPNA, bien évidemment, qui est une des associations très anciennes, etc., puis qui a une représentation aussi au niveau national. Et on a l'ASPAS, qui est basée à Cré. Voilà, qui chacune œuvre dans des domaines un petit peu complémentaires, on va dire ça comme ça. Donc, la LPO. Et après, bon, au niveau national, il y a d'autres associations, style FERUS, qui est une association qui met en avant un peu tous les grands prédateurs, lynx, loup, ours. Bon, après, il y a des débats divers et variés autour des prédateurs, etc. Et bon, ça, c'est un autre sujet. Mais il y a un tas de gens qui œuvrent et qui œuvrent vraiment de manière intéressante, intelligente et tout ça. Donc, en parlant de la LPO, d'ailleurs, il y a un affût dans le bois des Bachassis à côté de la Véor qui est très intéressant l'hiver pour voir tout un tas d'oiseaux et tout ça, dont certains qu'on n'a pas l'habitude ni l'occasion de voir. Voilà, juste une petite parenthèse. Voilà.
Vas-y, continue.
Non, après, moi, c'est vrai que je suis je suis ça un peu de loin, on va dire ça comme ça. Bon, je participe après en faisant des observations, des choses comme ça. Il y a un site qui s'appelle faunedrome.org, qui est donc qui dépend entre autres de la LPO, et sur lequel on peut mettre des observations qui permettent de suivre un peu l'évolution des espèces ou la régression, parce qu'on est quand même dans une période où il faut quand même constater depuis de nombreuses années toutes les espèces qui diminuent, qui régressent, voire qui disparaissent, quoi. Et donc on est en lien là, notamment au niveau de tout ce qui est ornithologie, avec des oiseaux en régression, du fait aussi des insectes qui disparaissent. Oui. Bon, après, les chiffres, on les a entendus. Hein, c'est assez...
Les pesticides qui...
Voilà. C'est assez affligeant.
On en a beaucoup parlé, effectivement, ce printemps, et c'est important qu'on en parle, parce que c'est nous aussi, à chaque fois... Je rappelle que quand on parle de faune, quand on parle de flore, quand on parle de nature, c'est nous humains aussi.
C'est ça.
C'est notre avenir. C'est pas si pour celles et ceux qui ne seraient pas forcément très, qui seraient un peu imperméables plus exactement au bien-être des animaux. Il y a un écosystème qui fait que nous on est dedans aussi, et que si cet écosystème se casse la figure, on fera pas long feu.
Oui, mais c'est exactement ça quand je parlais de sensibilisation. Parce que les gens ne voient pas forcément, ou n'ont pas forcément cette info par rapport à les interactions entre les espèces. Hein, mais se dire que les abeilles, il y en a de moins en moins, bon, comme ça, au premier abord, sauf que les abeilles, pollinisation et tout ce qui suit, toute la chaîne qui suit derrière. Quand je parlais qu'on est invité, oui, on est invité. Bon, on a l'impression, effectivement, que l'espèce humaine est supérieure, mais bon, c'est tout à fait relatif. Hein. Voilà, donc là, il y a matière, effectivement, à expliquer, à sensibiliser à ce niveau-là.
Alors, je te propose de faire une petite pause musicale, et puis on continue tout de suite après. On écoute Serge Gainsbourg, la chanson de Prévert.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir, jour après jour. Les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire, car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir, jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir.
Serge Gainsbourg, la chanson de Prévert, dont l'invité de 11h et quelques sur Radio BLV 93.6. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Jacques Bertin, photographe naturaliste. Alors Jean-Jacques, tu nous as baladé un petit peu dans la Drôme. On a parlé de ce travail en Drôme. Mais tu n'arpentes pas que le sol drômois, tu arpentes aussi le sol guadeloupéen. Sur ton site de très belles photos qui viennent de Guadeloupe. Alors raconte-nous un peu la Guadeloupe et notamment les baleines.
Alors, les baleines. Oui, effectivement, vous pourrez voir sur le site, il y a des photos de baleines, de pélicans, de frégates, de garde-beux, ce sont des petits hérons et tout ça. Voilà, donc j'ai fait quelques passages là-bas parce que j'ai des amis qui travaillent en Guadeloupe. Voilà, et qui eux-mêmes sont photographes, cinéastes. C'est pas leur travail, c'est comme moi, ce sont des amateurs. Mais qui sont dans la même démarche. Donc, ils ont créé deux associations. Une qui s'appelle Mon École, Ma Baleine. Donc, qui est une association de sensibilisation, puisqu'ils interviennent dans les écoles pour tout ce qui est protection, découverte des cétacés, etc. Parce que la Guadeloupe s'y prête avec toutes les baleines à bosse qui viennent effectivement se reproduire dans les eaux des Antilles. Hein. Donc, entre décembre et début mai. Voilà, donc c'est à cette occasion que j'ai pu photographier, notamment sur l'eau avec eux. Et une deuxième association qui s'appelle l'OMAG. Donc là, on est quelque chose de plus scientifique. C'est du repérage, d'identification de notamment des baleines à bosse avec des ramifications un peu partout maintenant, puisqu'ils étudient les migrations aussi dans l'Atlantique Nord, etc. Parce que ce sont des animaux qui font des milliers de kilomètres pour se retrouver là et puis après repartir. Voilà. Et puis donc Mon École, Ma Baleine, qui est vraiment une association qui est en train d'essaimer dans toutes les Antilles au niveau des interventions dans les écoles, etc. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça, c'est l'avenir, quoi. Donc voilà, d'où les photos.
Travailler avec les enfants, de toute façon, c'est indispensable, transmettre.
Si on veut avoir une chance de s'en sortir,
oui,
bon, on verra
absolument.
Peut-être pas, mais...
Alors, quand tu as ton appareil, quand tu vas te balader, entre justement la Drôme et la Guadeloupe, bon, outre le fait bien que voilà, chacun, on sait que c'est très différent, bien évidemment au niveau de la nature et de la faune et de la flore et de l'environnement au sens large, quelles sont les différences les plus marquantes que tu trouves entre tes balades dans la Drôme et tes rencontres dans la Drôme et puis tes balades en Guadeloupe? Est-ce que toi tu as eu des ressentis vraiment extrêmement différents?
Non, des ressentis, non, c'est la même. Pour moi, c'est la même démarche, hein. Donc c'est une approche, effectivement, par un biais qui est la nature, l'environnement de ces endroits-là, quoi. Mais bon, non, la démarche est la même, quoi. Après, effectivement, c'est une approche. Après, au niveau des gens aussi, mais bon, là, c'est une extension.
Bien sûr, voilà. Bien sûr. Pardon. Mais est-ce que au niveau de la faune, par exemple, parce qu'on parle de faune sauvage, mais bon, tout est relatif malgré tout dans nos contrées habitées.
Oui. Ouais, c'est un peu perverti l'histoire.
Voilà. Donc, est-ce que justement, tu as eu le sentiment que c'est plus sauvage dans la Drôme ou dans certains coins de la Drôme ou en Guadeloupe? Je parle pas d'exotisme, hein. Là je parle vraiment
non,
de
faune
sauvage.
Non, on n'est pas dans l'exotisme. Après, on est dans... Il faut savoir que c'est habiter dans la Drôme, c'est être privilégié, parce qu'on est un des massifs les plus sauvages. Effectivement, si vous voulez faire... Je crois que ce qu'il faut que les gens se rendent compte, c'est qu'une photo de chamois dans la Drôme, sur le Vercors ou dans le Mercantour, c'est pas du tout la même chose. Mercantour, on est dans un parc national. Moi, la première fois que j'y suis allé, effectivement, j'ai approché un chevreuil ou un bouquetin, surtout les chamois. Mmh. comme je pratiquais sur le Vercors, c'est-à-dire avec beaucoup de patience, d'approche, etc. Et dans le Mercantour, rien à voir, quoi. Ils sont en parc national, ils ne sont pas chassés. Bon, bah, oui. On va éviter le débat sur la chasse, mais voilà. Donc, on a des animaux qui sont... Bah, qui ne sont pas farouches, quoi. Donc, quand on peut approcher un chamois à 10 mètres, dans le Vercors, c'est impossible. Alors, effectivement, c'est un massif beaucoup plus sauvage, mais avec un impact, mais bon, ça, c'est depuis des années, des décennies, un impact de la chasse qui fait qu'on... y a des espèces qu'on ne voit plus en journée.
Voilà. Ah oui.
Eh oui. Donc, qui ont appris à devenir nocturnes du fait d'une pression importante. Voilà. Bon, je
clôt. Alors ça, c'est marrant parce que tu en parles. J'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps, effectivement, de la dérive, on va dire, la mutation de certaines espèces qui deviendraient de plus en plus nocturnes,
oui, tout à fait,
sous la pression de la ville dans certains endroits, des prédateurs humains ou de la prédation du bruit, etc.
Oui, parce qu'on parle, on va éviter de rentrer dans ce débat-là, mais il y a des... Si on veut faire un parallèle, par exemple, entre notre nature ici dans la Drôme et puis les Antilles, c'est le nourrissage, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qu'on nourrit pour les avoir à portée de main et à portée de fusil. Et dans les Antilles, c'est ce qu'on appelle le whale watching, notamment le nourrissage de requins qui a fait aussi, qui peut créer des incidents, etc., de manière à pouvoir amener les touristes. C'est ce que.
Pour voir effectivement des requins
ou, bon, après d'autres espèces éventuellement, mais c'est. Il y a une espèce de perversion, là, de la nature, effectivement. Bon, je veux dire, dans la Drôme, on n'a plus un sanglier qui soit d'origine génétiquement non modifiée, naturelle, quoi. Voilà, il faut le savoir, parce qu'il y a eu des croisements depuis quarantaine d'années, voire un peu plus, d'animaux domestiques qui ont été relâchés d'élevage, qui ont été relâchés dans la nature, qui se sont croisés, etc. Mmh. Donc voilà. D'où aussi des animaux qui font plus de dégâts dans les cultures, parce que moins craintifs,
bon, oui.
Par exemple. Mais cela dit, ils se baladent la nuit, comme ça ils sont sûrs d'être... d'être un peu plus peinard, quoi. Voilà, je clôt la parenthèse, mais ça permettait de faire le lien aussi entre la Drôme, les Antilles.
Alors je ne sais pas combien il y a de photos sur le site, j'en sais rien. Je les ai pas comptées, je suis pas là pour ça, mais c'est énorme. Vous avez vraiment la possibilité de vous balader, de voir les merveilles de ce monde, parce que c'est vraiment des merveilles, que ce soit les oiseaux, les insectes, les mammifères, les papillons, peu importe. Voilà, tout est beau, et c'est le regard, ton regard de photographe nous transmet vraiment cette beauté sauvage. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est vraiment c'est pas justement des images esthétisantes. Voilà, elles sont belles, mais elles sont pas esthétisantes. On sent qu'il y a pas, c'est vraiment elles sont très belles, mais on voit vraiment l'animal. C'est avant tout l'animal vivant qui est mis en avant, et ça c'est plutôt chouette, quoi. Voilà, c'était la petite parenthèse.
Donc cela dit,
oui, dis-moi.
Je suis aussi dans une recherche un peu plus esthétisante, c'est-à-dire de notamment toutes les photos d'oiseaux en vol sur fond blanc ou sur fond noir. Voilà, il y a aussi une recherche à ce niveau-là qui ne soit pas uniquement de la photo naturaliste. Voilà, bon, ça c'est une recherche ou l'intégration de l'animal dans un univers naturel, mais avec des formes géométriques, en l'intégrant dans des choses un peu différentes, un peu plus surprenantes. Voilà. Ouais. Et cela dit, juste petite parenthèse sur le côté un peu technique. Toutes les photos là, qu'il y a sur le site ont été prises en pleine nature, c'est bien de le préciser.
Oui.
Et puis, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de choses enlevées, ni rajoutées, ni etc. Tout simplement, donc, je fais de la photo avec ce qu'on appelle des fichiers RAW, qui sont des fichiers bruts que je retravaille après en post-traitement. Bon, mmh. Ça parlera aux photographes un petit peu plus avertis. Donc, le fichier RAW, est, l'image JPEG qu'on a sur tous les appareils photo, mmh. c'est l'image instantanée que l'appareil traite. Le fichier RAW, on va le voir aussi de la même manière que le JPEG, sauf qu'il faudra le post-traiter après. Comme on faisait dans le temps avec un négatif, voilà. Quand on avait les labos dans les salles de bain, etc. Voilà.
Donc avec la lumière rouge.
Avec la petite lumière rouge et tout ça. Donc voilà, c'était juste la petite précision par rapport au... Et voilà, par exemple, les photos d'oiseaux en vol sont réalisées... Il y en a une ou deux qui sont dans le ciel, mm-hmm. mais la plupart sont réalisées sur ma terrasse avec un fond blanc que je tends derrière la... Derrière la mangeoire en hiver, et donc après, c'est des petites scènes de vie d'oiseaux qui se prennent de bec ou pas, ou qui arrivent, qui repartent. Voilà.
Alors, les rencontres, on a parlé de rencontres qui se font ou qui se font pas, voilà, de parfois un animal qui ne t'a pas vu, mais que toi tu as pu voir et qui ne t'a pas vu, et puis parfois il y a la surprise de la rencontre. J'imagine que tu as des grands moments, des grands souvenirs comme ça, de moments où il y a eu un peu de frisson parce qu'il y a une vraie émotion qui est passée, outre la recherche photographique et puis le plaisir d'être là. Mais il doit y avoir ça.
Il y a ça. Bah, hier soir, j'ai passé une demi-heure avec un brocard.
Qu'est-ce que c'est un brocard, donc,
c'est un chevreuil mâle. Voilà, donc en plus dans les grandes prairies sur le Vercors, donc ça s'est passé quoi, ouais, une demi-heure d'observation. J'ai pris une photo, quoi. Voilà, bon, il était un petit peu loin, mais actuellement il y a des cadres magnifiques avec l'herbe qui est haute, les fleurs et tout ça. Voilà, bon, ça c'est en fait 3 heures de balade, un chevreuil hier soir, hein, donc et puis un renard en rentrant en bagnole, donc c'est effectivement, c'est voilà, ça peut être ça aussi ou ça peut être rien du tout. Voilà. Sinon, oui, j'ai une petite anecdote. J'ai fait 2 années de suite des photos de guépier, donc qui est un superbe oiseau migrateur qui vient dans la Drôme, on va dire au mois d'avril, et qui repart fin du mois d'août, mi-septembre. Donc, qui niche en colonie essentiellement dans des grands talus. C'est un peu comme le martin pêcheur, donc qui font des trous dans les talus, etc. Et ils nichent et ils sont effectivement en colonie plus ou moins importante. Et donc, j'ai fait un peu d'affût là, il y a quelques années, pendant 2 années de suite. Et j'étais avec mon petit filet. Bon, des fois, j'ai un filet sur la tête, hein, parce que suivant ce qu'on observe et ce qu'on veut photographier. Voilà, mais un truc assez simple. Et il y a une huppe qui s'est posée à 7-8 mètres devant moi et qui est restée là pendant une demi-heure. Un oiseau que je n'étais jamais arrivé à photographier. Et qui s'est posé là, qui a pris des bains de sable, à non plus finir, c'était dans une carrière, et bon, scotché, quoi, pendant une demi-heure, et là, on fait le plein pour des journées et des journées. Voilà.
Comme quoi,
l'image.
Oui,
voilà.
J'imagine.
Celles qui sont immortalisées sur la pellicule, et puis les autres dans la tête. Et puis, il y a toutes les photos qu'on n'a pas fait aussi, hein, donc voilà.
Oui, aussi, oui.
Et puis celle qu'on imagine, voilà, celle qu'on imagine.
Mais c'est rarement celle qu'on finit par faire.
Un peu.
Voilà. Comme tu disais, voilà, j'étais venue pour le guépier, puis finalement, c'est une huppe qui s'est présentée.
Voilà.
Alors, je ne sais pas si tu as réussi à faire des photos de guépier ce jour-là, mais
j'ai fait aussi des photos de guépier, voilà. Mais ouais, la huppe fasciée, qui est un oiseau superbe, etc. Et c'est un petit bonheur, quoi. Voilà.
Photo couleur, hein, photo couleur.
Ouais, couleur. Il y a aussi un peu de noir et blanc.
Quelques noirs et blancs,
ouais. Ouais.
c'est plutôt couleur.
Dans le bouquetin, par exemple, les photos de bouquetin, oui, il y a quelques photos noir et blanc. Ça dépend. Des fois, il y a des images qui s'y prêtent. On se dit, tiens, ça va devenir noir et blanc. Oui. Mmh. Alors après, on peut faire ça. Quand je dis pas de trucage, on peut une photo couleur, on peut effectivement la transformer en noir et blanc.
Oui, oui.
Après, on est plus dans le côté esthétique, ambiance, effectivement.
Oui, après, voilà. Travail sur la photo, sur la photo elle-même. Alors pour retrouver tes photos, on a le site internet. Je vous rappelle, c'est jjbertin.fr. Donc vous pouvez aller voir le site. Mais vous pouvez aussi voir les deux expos en ce moment. On parlait puisque Jean-Jacques a décidé de commencer les expos. Ah bah c'est bien. Parce que c'est bien quand même aussi de voir les tirages. Au Bazar des Mots, le Bazar des Mots, c'est une très belle librairie à Haute-Rive. Et ça, c'est depuis le 20 mai, c'est jusqu'au 21 octobre. Et puis un tout petit peu...
Pour préciser, il y a d'autres expositions, c'est-à-dire qu'il y a la librairie. Et en traversant la librairie, on arrive dans un jardin, un espace extérieur, où il y a effectivement les photos que j'ai installées. Et il y a d'autres expositions et c'est un lieu très très agréable. En plus de la librairie qui est passionnante, parce qu'il y a tellement de choses que c'en est presque pénible, il y a tout un espace extérieur et l'idée c'est deux libraires qui étaient avant installés dans le musée d'art brut de l'autre côté de la rue. Mmh. Voilà. Et donc il y a toujours une recherche au niveau art singulier, on va dire. Mmh. Voilà.
Donc ça, c'est à Haute-Rive, le Bazar des Mots, très très belle librairie, effectivement très beau lieu de vie aussi, ouais, lieu de absolument. Partage artistique. Et puis un petit peu plus proche de chez nous, à Bourg-de-Péage, au magasin Colline Bio, et ça c'est jusqu'au 28 août.
C'est ça, donc ça c'est jusqu'à la fin du mois d'août. Donc c'est une association de petits producteurs locaux, donc ce sont les gens qui sont sur le marché à Saint-Donat, sur l'Herbe Basse, le samedi matin. Mmh. Et donc qui ouvrent un regroupement de producteurs et donc ils ont un petit magasin très sympathique à Bourg-de-Péage, c'est rue du Docteur Hénard et c'est pas loin de la mairie, de l'autre côté du trottoir et ils ouvrent le mercredi et le vendredi. Voilà, et donc ils font des permanences à tour de rôle en plus d'un permanent.
Donc vous pouvez aller faire vos courses et puis voir l'expo.
Et acheter des bons légumes et tout ça, et des bons fromages.
Et alors cet été, est-ce que tu as des projets pour cet été, des projets de photos particulières? Parce que tu le disais tout à l'heure, tu parlais du guépier voilà, qui est là, qui passe par chez nous à une date donnée. Donc c'est vrai qu'il y a certains animaux qu'on voit plus à certains moments. Est-ce que tu as des projets particuliers?
Non, j'ai pas de recherche particulière. Après, moi, d'aller dans une nouvelle région, une région que je connais pas, c'est toujours un petit bonheur parce que ça permet de découvrir. Après, bon, c'est un peu centré sur la faune, mais d'autres oiseaux ou qu'on voit plus difficilement chez nous, ou pas, enfin, etc. Voilà. Si j'ai quand même l'année dernière, si j'ai oublié ça, c'est quand même ça. C'était très intéressant. On est parti avec un copain espagnol en Andalousie pour photographier le lynx espagnol, le lynx pardel. Donc voilà, donc on a passé 10 jours là-bas. Je lui ai prêté un appareil, mon ancien appareil, mon ancien objectif, et c'est lui qui l'a photographié parce que moi je ne l'ai pas vu et c'est très énervant. Voilà, c'est dans le cadre des anecdotes. Voilà. Donc ami Paco, merci. Voilà. Le dernier matin, on s'est séparés sur la piste. Il est parti d'un côté, moi de l'autre, et c'est lui qui a fait la rencontre. Donc voilà. Donc une des poches de résistance du lynx où il y a environ 250-300 individus, mais c'est l'espèce européenne la plus menacée. Voilà. Donc juste pour l'anecdote.
Et puis pour la nommer, c'est bien aussi. Merci, hein, merci beaucoup Jean-Jacques. On va donc vraiment aller découvrir le travail de Jean-Jacques, soit au Bazar des Mots à Haute-Rive jusqu'au 21 octobre, soit au magasin Colline Bio à Bourg-de-Péage jusqu'au 28 août. Il y aura d'autres expos, j'imagine, à la rentrée. On en parlera, on les annoncera. Et puis d'ici là, vous pouvez aussi aller vous régaler sur les sites internet de jjbertin.fr. Et puis un conseil aussi, allez vous balader dans la nature, allez vous balader, puis vous verrez que petit à petit le regard s'affûte aussi.
Voilà, et puis même si vous n'avez pas le temps d'aller vous balader très loin, pour regarder dans le jardin, faites un tour du jardin ou d'un espace public où il y a toujours quelque chose à voir. Même si les insectes sont effectivement dans une grande régression, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et bon, l'univers de la macro, on fait sur 2 mètres carrés dans le jardin, on peut y passer des heures et des heures. Voilà, je sais plus, je voulais rajouter un truc, ça y est, ça m'a échappé. Donc voilà, ouais, mais oui, profitez de la nature parce que c'est en train de se dégrader à vitesse grand V. Voilà, ah oui, si, ouais, comme on est dans un lieu de musique aussi. Mmh. Voilà, c'est l'autre passion. Voilà, moi, on fait partie d'un groupe de percussion déambulatoire haïtienne, donc dans un groupe qui s'appelle Tanderara.
Ouais.
Voilà, donc c'est comme la batucada qui est brésilienne, sauf que là, le rara, c'est la musique traditionnelle haïtienne. Voilà, donc on est un groupe et on joue notamment ce 21 à Châteauzange-le-Goubet, puisque c'est
pour la fête de la musique.
La municipalité nous prête une salle à Pisançon pour répéter chaque semaine.
D'accord.
Voilà, tous les jeudis soirs. Bon, je fais un peu de pub.
Oui, mais t'as raison.
Voilà,
mais
c'est un lieu musical aussi.
Qui se passe sur
donc on joue à Chatu et après on jouera à Romans sur Isère. Voilà, donc c'est tous les jeudis soirs, on cherche du monde, n'hésitez pas, ça
donc
vous intéresse.
Donc allez découvrir la percussion.
Voilà, c'est de la percussion déambulatoire, à la différence de la batucada, il y a du chant en plus. Voilà.
D'accord.
Voilà.
Eh ben, allons découvrir ça pour la fête de la musique ce jeudi.
Merci de cet accueil.
Mais avec grand plaisir, Jean-Jacques. À bientôt.
On va continuer à faire des selfies dans le studio, qu'est-ce que t'en penses?
Bien, merci énormément. Vive la France libre.
Une révolution humaine.
L'invité de 11h et quelques, la rediff.